Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Avant de commencer cette dernière étape de notre série « L'importance du réveil », le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner deux exemples authentiques de personnes que j'ai connues étant donné mon grand âge. Et pour vous mettre en garde que nous devons nous battre jusqu'au bout pour avoir la victoire finale. La victoire n'est pas automatique, ni une question que quelqu'un serait plus préféré que quelqu'un d'autre. Donc avant de commencer le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner, de vous annoncer, voici donc quelque chose de très important que je dois partager avec vous. Vu, je le répète, mon grand âge, j'ai quelques souvenirs et des souvenirs certains. Dans un village de montagne, il n'existe rien d'autre qu'une petite église catholique et le prêtre qui donne la messe le dimanche matin. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. Il y a même des villages où il n'y a rien du tout. Et là, une maman a élevé 4 enfants. Elle est restée fidèle à son mari durant toute sa vie. Et elle a accepté le fait que Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice à la croix pour le salut de ceux qui ont compris qu'ils étaient perdus. Pour cette femme, ce n'est ni Bouddha ni Mohammed qui sont les garants de son salut. Seul Jésus-Christ est celui qui est son Sauveur et Seigneur. À sa mort, elle savait qu'elle aurait la vie éternelle, bien qu'elle était restée, vu les circonstances de sa vie pénible, elle est restée au début, c'est-à-dire spirituellement, que sommairement, en connaissant uniquement l'évangile du salut. Or, je connaissais des chrétiens qui ont bénéficié d'un enseignement beaucoup plus élaboré, étant même baptisés dans le Saint-Esprit et parlant en langue. Or, je vais citer qu'un seul cas, il y en a beaucoup, mais j'en citerai qu'un seul, un homme marié avec 3 enfants, faisant partie d'une église évangélique classique, et toute la famille sauvée en Jésus-Christ. Un jour, le mari est invité à une évangélisation pentecôtiste extrême. Je suis obligé de raccourcir ce témoignage. Hélas, ce mari a quitté sa femme et ses 3 enfants pour partir au Canada avec une jeune fille qui parlait en langue et qui avait même reçu le don de prophétie. Sa femme, ayant subi un terrible choc psychique, a dû être hospitalisée dans un asile psychiatrique et les 3 enfants ont quitté la foi chrétienne. Conclusion. Personnellement, je ne suis pas certain que cet homme va être reçu au ciel les bras ouverts. Cela engage que moi comme réflexion, mais je vous demande de bien réfléchir si là il n'y a pas une vérité profonde. Donc on a dit, nous arrivons à la dernière étude concernant l'importance du réveil, et je vais vous citer les grands réveils plutôt récents. Ceci est donc la troisième partie concernant les réveils. C'est l'étude numéro 9. Nous avons tout d'abord Maria Woodward-Ether de 1844 à 1924. Madame Ether mena un très dur combat avant de répondre à l'appel de Dieu à prêcher l'Évangile. Dieu dut lui prendre la plupart de ses enfants avant qu'elle ne se soumette à son appel. Elle a toujours eu des doutes sur cet appel parce que elle était une femme et que à cette époque-là, il n'y avait guère de femmes dans le ministère. Lorsque enfin elle y a répondu, elle rencontra beaucoup d'opposition. Mais l'onction du Seigneur était sur elle, et il se servit d'elle de façon merveilleuse, avec des signes et des prodiges, et cela dans plusieurs régions des États-Unis. La plénitude du Saint-Esprit était manifestée dans toute sa vie et de son ministère, et par sa puissance, des communautés entières étaient bouleversées. Son autobiographie, les signes et les prodiges racontent sa vie en entier, et on peut y lire son merveilleux compte-rendu de l'action puissante du Saint-Esprit. Et elle a eu la prophétie suivante. Écoutez bien ce qu'elle nous dit. Lorsque j'exerçais le ministère en Californie, le Seigneur me montra qu'il y aurait bientôt un tremblement de terre avec beaucoup de destruction. Peu de temps après, les journaux étaient remplis d'images de ce terrible cataclysme dans la région de San Francisco. Je leur avais dit qu'avant le jugement, Dieu faisait toujours miséricorde, qu'ils avaient rejeté la miséricorde et que ce serait maintenant la destruction et le jugement. Le séisme ayant eu lieu peu de temps après, la crainte de Dieu s'empara de ceux qui se sont souvenus de cette prophétie. Elles s'accomplirent toutes deux, ces prophéties se sont accomplies, et voici ce qu'elle continue de dire, et j'ai eu l'occasion de marcher parmi les ruines. Une femme qui avait été baptisée du Saint-Esprit et guérie d'une fracture à la jambe a eu la vision de la tempête à l'horizon et le dit à tout son entourage. Sa prophétie est devenue une réalité exactement 2 semaines plus tard. Lors des rencontres à Louisville, dans le Kentucky, le Seigneur se manifestait avec beaucoup de miséricorde et de puissance, mais beaucoup avaient rejeté l'Esprit et se sont endurcis donc dans leur cœur. Le Seigneur a révélé à une sœur la tempête qui devait dévaster la ville, détruisant beaucoup de maisons et tuant beaucoup de gens. Cette même sœur a vu la tragédie du Titanic et elle l'a vu couler avec des centaines d'âmes à bord une dizaine de jours avant même la catastrophe. Elle a vu sortir les bateaux de sauvetage, les passagers, que l'on a aidé à y descendre. Elle a même vu qu'on a tué et jeté à la mer un homme qui était caché dans un de ses canots. Sa vision du désastre était si réelle que ses hurlements faisaient peur à son mari. Le Seigneur montrait de manière remarquable ce que serait l'enlèvement de l'épouse, et le Saint-Esprit agissait puissamment dans chaque réunion. Le 24 mars 1904, Maria Ether, lorsque particulièrement saisie par le Saint-Esprit, priait pour un malade. Elle a vu le Seigneur sur la croix et des pécheurs qui s'approchaient de lui. Elle a vu les marches conduisant aux portes de perles du ciel. Tous ceux qui plongeaient dans la fontaine furent immédiatement placés sur les marches. Chacun portait une lumière qui devenait de plus en plus éclatante au fur et à mesure qu'ils montaient sur les marches. Leur robe était immaculée. Elle comprit qu'ils étaient la lumière du monde et que leur lampe était allumée dans le ciel. Christ était en eux et chacun était gardé et escorté par les anges de Dieu alors qu'ils montaient. En haut des marches, se trouvaient les portes de perles où les armées célestes accueillaient les pèlerins terrestres. Elle a vu aussi que le monde se trouve dans d'épaisses ténèbres et que les sauvés sont très peu nombreux. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ou peu sont acceptés. Beaucoup étaient convaincus de péché, mais ils mettaient leur confiance uniquement dans leur prêtre ou dans la confirmation ou dans leur carte de membre d'église. Mais s'ils ne portent pas la lumière de Dieu, leur état est pire que celui du pécheur. Le monde entier est dans les ténèbres, à part quelques-uns. Et elle continue son récit, écoutez bien. Elle dit, « J'ai vu les préparatifs dans le ciel et sur la terre pour le prochain retour du Seigneur. Le ciel paraissait être vraiment ému. Le Seigneur rassemblait ses armées, préparant les chevaux et les chars. Les armées célestes bougeaient, les portes étaient ouvertes. Un ange sortit, sonnant de la trompette. Le Sauveur se plaçait à la tête, entouré de la gloire du ciel et d'une voix forte qui réveillait les morts. Il criait aux saints. Le Seigneur lui montra qu'il jugeait son peuple, séparant le bon grain de l'ivraie, et que son peuple recevrait sa portion de nourriture au temps voulu par Dieu. L'ange mettait le sceau divin sur les derniers membres de l'épouse. Le troupeau était petit et la dernière brebis était bientôt scellée. Alors viendrait le Seigneur sur une nuée de gloire pour conduire son épouse aux noces de l'agneau. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils soient prévenus et qu'ils se repentent, car le jugement de Dieu est proche. À Faustina, dans l'Ohio, lors d'une série de rencontres en mars 1922, elle a eu une vision de Dieu. Elle se trouvait à côté de l'estrade pendant une réunion de jour. Un homme dans l'auditoire dit d'une voix forte, « Sœur Woodward Ether, regardez la main au-dessus de la porte. Oui, regardez dans cette direction. » Elle a pu voir une grande main, un poignet et une partie de bras. Les doigts étaient légèrement fléchis à part l'index et l'auriculaire et pointaient en toute direction vers l'auditoire, puis l'index pointa vers elle. Ensuite, la main semblait appeler. Tous ont vu cette main, et elle s'écria « Oh !» J'ai compris que c'est la main de Dieu, et cette main ensuite a disparu. Le Seigneur lui montra que cette vision avait un rapport avec son prochain retour. La mise en garde, les mains pointées vers le peuple et vers le ciel, disait que le peuple devait chercher la lumière qui le préparait à sa venue. Il lui montra que ce serait dans 80 années qu'il y aurait plusieurs changements dans le monde. Cette vision n'était pas de Christ, mais du Dieu de l'éternité, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paternité et l'amour de Dieu lui furent révélés comme jamais auparavant. Un Dieu qui est une personne autant que l'est Jésus-Christ. Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Le Père me toucha le front, m'informant par cela qu'il me révélerait ses plans glorieux, le mûrissement de la moisson, la préparation de l'épouse, la venue de l'époux. Il me dit que j'avais ma part à faire dans ses plans, qu'il avait à nourrir l'Église, à mettre en garde les païens, à appeler le peuple en vue des noces de l'agneau avant que la porte ne se ferme pour toujours, à exhorter à la fidélité. Le Seigneur me montra qu'il révélerait ces choses autant par sa sainte parole que par l'Esprit Saint. Il les écrivait sur mon front. Son doigt toucha mes lèvres, me montrant ainsi qu'il mettrait les mots et leur application dans ma bouche, car il est temps que nous puissions voir ces choses. Il me mit, on peut dire, ses bras autour de moi, manifestant ainsi son amour et sa protection. Oui, il me donnait une nouvelle vigueur pour son travail, pour avertir le monde et pour préparer l'épouse. Je me suis trouvé à plusieurs reprises aux portes de la mort, mais le souvenir de cette vision m'a vivifié. Oui, j'ai été merveilleusement éclairé pendant toutes ces années et je comprends mieux ces choses jour après jour, alors que Dieu me conduit à séparer le bon grain de l'ivraie par sa sainte parole et par son Esprit Saint. Christ le grand moissonneur me conduit et m'éclaire. Le temps est très court. Le Seigneur me montra que le temps touche vers sa fin. Le Seigneur qui lui montra également beaucoup de choses là-dessus. Jamais elle a autant aimé ce Père aimant comme elle l'aimait et elle l'aime aujourd'hui. Jamais elle n'a eu idée comme maintenant de la grandeur et de la gloire de ses plans. Oh, gloire à son saint nom éternellement. Par cette vision, le Seigneur lui montra les vicissitudes et les changements qui devaient avoir lieu dans les 4 prochaines années de sa vie. Toutes ces révélations se sont absolument accomplies. Voici la vision du frère H.C. Mears. Voici ce qu'il a vu. J'ai vu la destruction du monde. Il y avait de l'orage, des éclairs, de la pluie et de la grêle. L'eau se précipitait dans toutes les directions. Il y avait des foules de gens. Et pourtant, il semblait que par un seul enfant de Dieu n'était présent. Personne n'était présent. Il faisait noir physiquement et spirituellement. Je voyais des armées entières, des soldats en uniforme et des gens courant de ça et là. Je voyais aussi des bombes tombant sur les maisons qui explosaient. Une autre fois, nous étions nombreux à adorer Dieu. Nous étions vêtus de blanc. Certains vêtements étaient plus blancs que d'autres. Ceux qui étaient très blancs sont montés vers le ciel. Les autres regardaient en haut avec le désir ardent de pouvoir monter aussi. Mais, ils n'étaient pas assez blancs pour rencontrer le Seigneur dans les airs et éviter la grande tribulation. J'en reconnaissais quelques-uns. Certains d'entre vous ne sont pas assez blancs, quoique vous prétendez être ses disciples. Par là, j'ai compris que certains d'entre vous seraient laissés en arrière. Une nuit, j'ai vu la bête dont il est question dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Une autre fois, j'ai vu Enoch, Élie, Moïse et les deux témoins. Leur nom était inscrit sur eux. Quelle puissance ils avaient! Ils étaient élevés au-dessus de la terre. Les feux du jugement brûlaient partout dans le monde et en haut. Combien il y a eu de pleurs et de gémissements. Les prophètes semblaient être tués et ils tombèrent à terre. J'entendis un cri et plus tard, je les ai vus se relever tout à coup. À une occasion, j'ai vu un ange qui passait en apposant le sceau de Dieu sur ses deux serviteurs. Et cet ange dit, « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les serviteurs de notre Dieu. » Une autre fois, je n'étais plus ici en esprit, mais à Jérusalem. Et là, j'ai vu le Seigneur mourant sur la croix, au milieu d'une grande foule. Oh, la douleur sur son visage! Je pleurais en le voyant. J'ai vu aussi mon Sauveur assis sur un trône éblouissant, et j'ai vu la couronne étincelante brillant sur la tête de celui qui donne son sang et qui est mort pour moi. Plusieurs d'entre les chrétiens, présents à la rencontre de Dallas, ont eu la vision de Christ, le roi glorieux, venant chercher son épouse dans sa glorieuse majesté et accompagné des armées célestes. Ils ont vu les rachetés se lever parmi des cris de joie et au son d'une musique céleste. D'autres ont vu même les noces de l'agneau, le somptueux festin étalé sur la table et la joie sur les visages des saints. On a vu Jésus sur un cheval blanc, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, avec ses saints également sur des chevaux blancs, les armées célestes revenant sur terre, la bataille d'Armageddon, la destruction de l'Antéchrist et son armée. Christ établissait son royaume et les saints régnaient comme rois et sacrificateurs pendant 1000 ans. Le Seigneur révèle des choses à venir, aussi bien sur la terre que dans le ciel. Dans toutes nos rencontres, on a pu voir les flammes du feu de Dieu reposant sur les têtes et des lumières sur et autour de l'estrade étaient visibles pour les saints comme pour les pécheurs. Jésus a marché parmi nous. Toutes ces guerres terribles qui ont ébranlé le monde et couvert de sang presque toute l'Europe pendant ces deux dernières années, il s'agissait aussi bien de la guerre de 14-18 que de la guerre de Hitler, a été prophétisé tout cela à Dallas moins d'un an auparavant et beaucoup d'autres choses se sont également accomplies. Le Seigneur s'est servi beaucoup du frère Mears, qui a eu aussi la vision de grandes choses, de grandes rencontres à travers le pays, de l'Atlantique au Pacifique. Il a vu ceux qui viendraient encore au Seigneur par centaines et tous les nombreux malades qui seraient guéris. On pouvait réellement dire comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, ce que vous voyez et que vous entendez et que vous sentez, c'est la promesse du Père, c'est le miracle du Saint-Esprit. Avec de grands signes et prodiges, le Seigneur a étendu sa main, accomplissant de grands miracles, guérissant toutes sortes de maladies, chassant les démons, terrassant sous l'onction de l'Esprit, convaincant de péché avec puissance et donnant aux saints de grandes révélations, des visions et des prophéties venant du ciel. Le Saint-Esprit a été vu sous la forme de langues de feu, de rayons de lumière, d'une nuée glorieuse au-dessus de la chair et de l'autel. Et le Seigneur a été vu par plusieurs marchant à l'intérieur du chapiteau et autour de l'autel. Des milliers de personnes ont été touchées et nous écrivent demandant de l'aide spirituelle ou physique. L'appel du Macédonien est « Venez et aidez-nous » ou bien « Envoyez de l'aide ». Dieu appelle les saints, les frères et les sœurs dans le ministère, les évangélistes et des ouvriers de partout. Ils sont rentrés dans les rangs, se réjouissant de l'unité, de l'amour et de la puissance de Dieu au milieu de nous. Et ils sont repartis, convaincus de la nécessité de voir davantage la puissance du Dieu vivant en nous, au travers de nous et de ces milieux, on peut dire, alors que la mer Éther, qui, comme on l'appelait en ce temps-là, arrivait au bout de son ministère, eh bien Dieu avait déjà suscité, écoutez bien, une autre servante beaucoup plus jeune. C'était Amy Semple MacPherson. Amy Semple MacPherson était une jeune femme très belle. Elle était une des personnes les plus contestées que le monde ait jamais connues. Elle est née à Ingersoll, Ontario, au Canada, et se convertit par le ministère d'un jeune évangéliste, Robert Semple. Ils sont partis tous les deux ensemble comme missionnaires à Hong Kong, où malheureusement son mari mourut. Ce fut un terrible chagrin pour elle, qui rentra donc au Canada avec sa petite fille qui venait de naître. Et à cause de nombreux découragements et de nombreuses épreuves, elle s'est éloignée de la volonté de Dieu en épousant malheureusement quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi, ce qui lui a coûté cher pendant toute sa vie. Elle a eu un fils, Rolf, qui est aujourd'hui à la tête du mouvement. Mais l'Esprit de Dieu l'appelait sans cesse à prêcher l'Évangile, et elle a trouvé des excuses, et ses circonstances étaient un obstacle jusqu'au jour où sur la table d'opération, elle a su qu'elle était en train de mourir. Et là, Dieu, Yahvé l'Éternel, lui parla, lui disant, « Maintenant, mon enfant, veux-tu prêcher l'Évangile ou est-ce que je te reprends ?» Et là, entre la vie et la mort, elle a promis de lui obéir et de répondre à son appel. Aussitôt rétablie, elle a fait ses valises et elle a pris le train pour Ontario avec ses deux enfants. À son arrivée, une réunion se déroulait. Elle s'avança en pleurant abondamment. Elle voyait en esprit le prix qu'elle aurait à payer. Elle savait que ce ne serait pas facile, car elle ne s'était pas trompée. Non, non, non. On a menti à son sujet. Elle a été calomniée, elle a été rejetée, critiquée et incomprise. Mais Dieu s'est servi puissamment d'elle. Elle a prêché l'Évangile sous de grands chapiteaux dans toute l'Amérique à des foules immenses. Et le Seigneur travaillait avec elles par des signes accompagnant la prédication. Des milliers ont été sauvés et guéris de toutes sortes de maladies, parfois même mortelles. Au temple Angelus, on a pu voir sur les murs des centaines d'appareils orthopédiques, de béquilles, d'appareils de tout genre abandonnés par ceux qui avaient été guéris dans ces réunions. Tous ont témoigné de la puissance de Dieu dans la vie d'une grande servante du Seigneur qui, malgré l'erreur de son mariage, pouvait être utilisée par Dieu le Père et par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Oh, la merveilleuse grâce de Dieu! Elle a fait construire, écoutez bien, c'est incroyable mais vrai, elle a pu faire construire une grande église à Los Angeles, c'est-à-dire le temple Angelus, qui pouvait contenir 5000 personnes. Les gens venaient des quatre coins du monde pour l'entendre prêcher, pour être guéris et pour être remplis du Saint-Esprit. Elle fut la fondatrice du mouvement Church of the Four Square Gospel, l'église des quatre angles de l'Évangile. Jésus, celui qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit, le roi de gloire, qui revient bientôt, et ceux qui avaient été touchés par son ministère, ouvrirent des églises partout où ils allaient, jusque dans le champ missionnaire. La sœur Aimée, comme elle souhaitait qu'on l'appelle, voyageait autour du monde et prêcha dans de nombreux pays. Elle a aidé des milliers de personnes au Canada, dans le Royaume-Uni, et beaucoup la disent bienheureuse, en quelque sorte une sainte. Un ami qui la connaissait bien raconta ce qui suit. J'étais assis sur l'estrade avec la sœur Aimée dans le grand temple Angelus. La foule venait de partir et d'autres commençaient à revenir pour la réunion suivante. Il y avait plusieurs cultes le dimanche à cause du trop grand nombre de membres. J'étais assis là, regardant et me disant « Oh, si seulement j'avais son onction !» Et voilà que tout à coup, elle se retourna, me regarda, et comme si le Saint-Esprit lui avait révélé ma pensée, elle me demanda « Voulez-vous que le Seigneur vous donne cette onction ? Voulez-vous qu'il se serve de vous de la même façon ?» Surpris, j'ai répondu « Oui, oui, sœur, certainement. » Alors, elle me demanda ensuite « Êtes-vous prêt ? Prêt à payer le même prix ? Pouvez-vous accepter le rejet, la moquerie, les mensonges proférés à votre égard ?» Je dis que oui, avec la grâce de Dieu. Elle est venue vers moi. Elle m'imposa les mains et demanda à Dieu de me oindre de la même onction que celle qui lui avait été donnée. Je rapporte ce témoignage afin de vous rappeler que l'onction n'est jamais bon marché. La plupart de ceux qui la désirent ne peuvent pas en payer le prix. Et à cause de cela, si Dieu la leur donnait, cela détruirait leur âme. Jésus a dit, « Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bénir ou bâtir plutôt une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'en ayant jeté le fondement et n'ayant pas pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de celui qui l'a fait, disant « Oh, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Saint Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Chers amis, avant de prier ensemble, eh bien j'aimerais vous dire, nous devons vraiment nous sonder et nous demander, suis-je vraiment capable de payer le prix du réveil? Puis-je payer le prix d'une grande onction? Ai-je l'étoffe d'un revivaliste? Oui, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Puis-je vraiment accepter les sacrifices qui me seront demandés, la souffrance à endurer, le rejet dont je serai l'objet, le mal qu'on dira de moi, et toutes ces choses négatives qui accompagnent l'appel du revivaliste? Car souvenez-vous qu'avec chaque couronne de gloire, il y a la croix. Amen. Je voudrais encore vous donner les dates des revivalistes. Date de naissance, 1703, pour Jonathan Edwards. Date de décès, 1758, âge approximatif 55 ans. 1703, John Wesley, 1791, âge 88. 1708, Charles Wesley, décès à 1788, âge 80 ans. En 1714, George Whitefield, décès autour de 1770, âge 56 ans. 1718, David Reinhardt, mort à 1747, âge seulement 29 ans. En 1761, William Carey, décès à 1834, âge 73 ans. Napoléon Bonaparte est né en 1770 et est mort en 1821 à 51 ans. En 1792, nous avons Charles Finet, décès à 1875, âge 83 ans. En 1805, nous avons George Müller, décès à 1898, âge 93 ans. Charles Darwin est né en 1809 et mourut en 1882 à 73 ans. Donc nous avons en 1829 William Booth, le fondateur de l'armée du salut, décédé en 1912, âge 83 ans. En 1834, nous avons Charles Spurgeon, un des plus grands revivalistes et un des plus grands qui a écrit des choses merveilleuses de la Sainte Parole. Il est décédé en 1892 à l'âge de 58 ans. En 1837, nous avons D.L. Moody, décédé en 1899, âge 62 ans. En 1844, nous avons Maria Woodward Ether, décédée en 1924, âge 80 ans. En 1859, nous avons Smith Wigglesworth, décédé en 1947, âge 88 ans. En 1865, nous avons John Hyde, décédé en 1912, âge 47 ans. Lénine est né en 1870 et il est mort en 1924 à 54 ans. Donc, en 1879, nous avons Rhys Hovels, décédé en 1950, âge 71 ans. En 1850, 79, nous avons Even Roberts, décédé en 1951, âge 72 ans. En 1890, nous avons Aimé Semple McPherson, décédé en 1944 ans, et elle est venue seulement à l'âge de 54 ans, car elle s'est dépensée jour et nuit pour servir son Sauveur et Seigneur. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Chers amis, étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est de plus en plus, ou plutôt plus que jamais, l'être humain est sujet de tomber malade avec toutes les épidémies, avec toute la pollution, avec tout ce qui va encore venir comme jugement sur cette terre, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette maintenant à l'avenir pour le peu que je vivrai encore, car le Seigneur va bientôt me rappeler à lui, car j'ai tout de même 88 ans, et évidemment, vous comprendrez que le squelette est en train de se dégrader, de se déglinguer. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout le monde comme ça. Même le célèbre Jacob, dans l'Ancien Testament, il est tout de même devenu aveugle avec le temps. Nous n'échappons pas à la dégradation de notre corps. Il y en a qui échappent, mais peu. Mais la plupart, nous avons toutes sortes de bobos avec l'âge. À l'âge de 70 ans, je pouvais encore traverser toute la ville de Genève au pas militaire. Mais maintenant, avec le canal lombaire coincé, j'ai tout de même rapetissé de 3 cm. Eh bien, croyez-moi, je ne serai pas dans la possibilité de m'inscrire l'année prochaine pour les Jeux Olympiques, ni d'essayer de battre les champions du tennis à Wimbledon. Donc, chers amis, le Saint-Esprit veut essayer de vous donner des prières qui seront possibles pour vous de pouvoir les adapter, je dis bien, de pouvoir les adapter à votre propre situation personnelle. Vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, je veux vous donner cette prière que le Seigneur m'a donnée pour vous, et vous avez le droit de l'adapter différemment selon votre propre ou selon vos propres problèmes au pluriel. Prions. Ô notre doux nom de Jésus-Christ, oui, le nom qui fortifie le cœur de l'homme, le nom qui donne la vie, le salut et la joie, précieux, glorieux et saint nom, ô le nom qui donne la force aux pécheurs, le nom qui sauve, qui règne, qui dirige et préserve de tout. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton grand nom, préserve-moi, ton humble serviteur, ta humble servante de l'esprit du diable. Fais que je voie, car je suis aveugle. Fais que j'entende, car je suis sourd. Fais que je me lève, car je suis paralysé. Donne-moi la parole, car je suis muet. Guéris ma lèpre, car je suis pécheur. Rétablis ma santé, car je suis malade. Donne-moi la vie intérieure et extérieure, afin qu'en étant approvisionné et fortifié par ton Saint-Nom, je puisse vivre en toi en te louant, en t'honorant, parce que toutes les louanges appartiennent à toi, toi qui es le seul, seul, tu mérites toute la gloire. Ô Seigneur Jésus-Christ et Fils éternel de Dieu, par toi, toutes les choses sont joie et sont dirigées avec justice. Que Jésus-Christ soit toujours dans mon cœur et dans mon âme, que Jésus-Christ soit toujours en moi et me fasse aussi renaître, parce que soit tout devant moi et ainsi me dirige, qu'il soit Jésus-Christ derrière moi et ainsi me protège, qu'il soit Jésus-Christ à côté de moi pour me diriger, qu'il me bénisse, me fortifie, qu'il soit toujours avec moi pour pouvoir ainsi me délivrer de toutes mes afflictions et surtout de la mort éternelle. Ô louange, honneur et gloire à toi, Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, Dieu voulant, vous verrez une nouvelle série super merveilleuse, magnifique, que elle sera quelque chose d'inhabituel pour beaucoup d'entre vous, mais enrichissante. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.